Merci Rémi. Je pense qu'il y a beaucoup, de choses à discuter dans ce que tu as dit. Je ne suis pas sûr que cette belle formule de la modernisation sans la modernité se vérifie à la lecture des documents. Je pense par exemple aux travaux du Comité national de la reconstruction dans lequel j'ai plongé, où on voit au fil des séances de manière très 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 forte l'insistance de quasiment unanime de tout le monde à flinguer les plans traditionnalistes, vraiment en termes de forme. Je ne parle pas simplement des systèmes constructifs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Je trouve aussi intéressant la présence de la figure de Lyautey. Finalement, s'il y a une figure tutélaire très très largement présente dans ce dispositif, c'est celui de Lyautey et aussi des anciens Marocains. Antonio Brucouleri va maintenant nous parler d'un de ces hommes de pouvoir. Lyautey.
Merci. Merci tout d'abord à Jean-Louis Cohen pour m'avoir invité dans le cadre de ce colloque. Il était d'ailleurs le directeur d'un travail de thèse qui portait sur l'œuvre et l'action de Lyautey, qui était menée entre la fin des années 90 et les débuts des années 2000. Un travail qui s'est arrêté depuis, qui a donné lieu à des choses à ce moment-là, mais sur lequel je reviens avec plaisir parce que effectivement retenti par rapport aux questionnements et aux réflexions qui peuvent être relancées aujourd'hui. Lorsque en 2000, en pleine préparation de cette thèse, je publiais un article sur Lyautey, directeur général des Beaux-Arts. Je mettais en avant le fait qu'il s'agissait d'un noyau fondamental de son parcours individuel, au-delà de toute lecture isolée de son itinéraire de fonctionnaire pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. L'action de Lyautey sous le régime de Vichy n'est compréhensible qu'à la lumière d'un projet plus ambitieux, qui étaient les siens, fondés sur une conception active, opérationnelle de l'histoire de l'architecture française, qui annonce et nourrit l'expérience administrative des années 1940. Son intérêt pour l'enseignement et les métiers de l'architecture contemporaine, son engagement en faveur de la conservation du patrimoine, doivent être situés dans la longue durée de son activité à partir du premier après-guerre. À distance désormais de quelques ans de la soutenance de cette thèse que j'évoquais tout à l'heure et de l'apparition du livre qui la suivait en 2007, je considère néanmoins utile dans les cadres de la discussion, des discussions que la rencontre d'aujourd'hui vise à provoquer, de relancer exactement cette interprétation. J'essaierai donc de la remettre en perspective en soulignant ce que Vichy a apporté à Lyautey et ce que les compétences de Lyautey ont apporté à Vichy. En conclusion, j'illustrerai quand même jusqu'à quel point peut-on parler, si tel est le cas, de son adhésion à une idéologie politique, ou plutôt d'un cas exemplaire de compromis, voire d'opportunisme politique, joué sur le plan culturel. La nomination de Lyautey en tant que directeur général des Beaux-Arts par arrêté du 24 juillet 1940 se cale dans un mouvement de refonte de l'administration qui puise dans une vision corporatiste et hiérarchisée de l'État, ou bien aussi déjà de le voir par les deux interventions qui m'ont précédé. Le background culturel de cette vision est ancré dans la période pré-républicaine. De quoi valoriser le travail d'un historien de l'architecture ainsi dite classique, couvrant surtout le XVIIe et le XVIIIe siècle, tel que l'était depuis les années 1920, Lyautey. L'un des points forts de ce mouvement de refonte se fonde sur l'objectif de réunir en fait des fonctionnaires expérimentés et des technocrates avant même que des hommes politiques, selon une tendance qui se veut à l'opposé des choix, surtout du gouvernement d'avant-guerre. Le cas de Lyautey n'est pas isolé. Joseph Barthélemy, Jean Berthelot, qui a été cité tout à l'heure, et Yves Boutillier, par exemple, sont nommés respectivement au ministère de la Justice, des Communications et des Finances. C'est des polytechniciens, des centraliens, des normaliens. De même, Jérôme Carcopino, déjà recteur de l'Académie de Paris, est installé au poste de ministre de l'Instruction publique. Leur réponse à l'appel du gouvernement issu de l'occupation allemande se situe donc dans cet esprit de rendre service au nouvel État français que Olivier Baruch a très bien analysé. La nomination du nouveau directeur général des Beaux-Arts s'inscrit donc dans ce dessein et ne peut pas être séparée de l'expérience acquise par Oetker lors de sa mission au Caire, en Égypte, en tant que directeur général des Beaux-Arts là-bas. Cette expérience conduite entre 1928 et 1930 est probablement déterminante aussi pour le choix de nommer Oetker qu'effectue le maréchal Pétain et celui qui était le premier ministre secrétaire à l'Instruction publique et aux Beaux-Arts en juillet 1940, Émile Miroz. Oetker est à l'époque un fonctionnaire connu et réputé. Il est d'ailleurs perçu, et c'est important, sans lien et sans aucun attache avec le milieu politique du Front populaire et l'entourage de son prédécesseur, Georges Wiesmann. Oetker lui-même, non sans raison, citera cette expérience comme un précédent important aux responsabilités assumées entre 1940 et 1944. Son activité de réorganisation de l'administration égyptienne, dont il offrait encore un bilan à la fin des 1930, et dont des collègues comme Pierre Ladoué, qui finira pour lui succéder à la tête du musée d'art moderne, rappelaient encore la valeur juste avant l'occupation, témoigne d'une manière de considérer de façon organique le fonctionnement des Beaux-Arts par une réforme cohérente, sachant concilier l'existant et les propositions nouvelles. En Égypte, Oetker s'occupera entre autres exactement de protection du patrimoine et de valorisation des vestiges archéologiques et des centres anciens, ainsi que d'enseignement artistique et architectural. Il prendra en charge même une sorte de refonte, de réforme de l'école des Beaux-Arts égyptienne, ce qui constitue deux piliers porteurs en ce qui concerne les arts et l'architecture de l'activité administrative d'Oetker sous Vichy. Mais au-delà et à travers sa mission en Égypte, c'est la réflexion sur le rapport entre les arts et l'État qui est précocement menée par Oetker dès le début des années 1930. C'est une enquête sur la genèse du système administratif français des Beaux-Arts que l'expérience directe de l'administration pendant les années passées au Caire a sans doute stimulée. Depuis 1932, à l'occasion de son intervention au premier congrès d'art moderne organisé à Venise à l'occasion de la Biennale, Oetker analyse le développement de l'administration des Beaux-Arts, son rôle et son caractère à l'époque contemporaine dans une perspective qui enchaîne la chronologie des périodes historiques jusqu'à son époque. Ses considérations sur l'organisation administrative française sont précédées par l'historique d'une administration qui pourrait célébrer son quatrième centenaire, comme il affirme lors de cette intervention. Le plan de celle-ci est instructif. La fonction d'office royaux qu'avaient les services de l'État sous l'Ancien Régime est présentée d'abord à travers le rôle inédit joué au XVIe siècle par François Ier, qui commença à grouper les châteaux sous une administration commune. Oetker se propose de mettre en évidence la conception royale de l'administration des Beaux-Arts, la persistance de cette organisation au XVIIIe et XIXe siècle, sa transformation graduelle coïncidant avec le progrès de l'idée de l'État. Il s'agit d'illustrer les phases d'une évolution du système pour lui. Même l'effort produit pour concilier liberté et centralisation sous la Troisième République ne peut pas être évalué, selon Oetker, sans référence à l'héritage de la centralisation royale réalisée au XVIIe siècle par les contrôleurs de bâtiments, Colbert, notamment avec la création des académies, dont des services tels ceux de monuments historiques ou des bâtiments civils, seraient, à son avis, les héritiers. L'apparat administratif encadre donc la fabrique de l'architecture et de la ville en France depuis l'Ancien Régime. Et c'est cette révalorisation du passé pré-révolutionnaire qui fait court-circuiter connaissances historiques et quête de légitimation culturelle de la part du régime vichyste. L'exorde au second volume du premier tome de la monumentale histoire de l'architecture classique en France, que Louis Oetker publie en 1943 lorsqu'il est au secrétariat des Beaux-Arts et qui traite de l'architecture à l'époque de Henri IV et de Louis XIII, porte sur la reconstruction de la France après la fin des guerres de religion. C'est à la première réforme structurée de l'administration des bâtiments, conçue par Henri IV, que Hautecoeur consacre d'abord son attention. En revenant au même moment sur les politiques du gouvernement de Vichy, face à la protection du patrimoine et la production artistique, il indique des réponses par l'histoire, considérées comme une sorte d'expérience plurigénérationnelle. L'histoire, c'est l'expérience de plusieurs vies. C'est ce que Hautecoeur écrit encore en janvier 1944, soit 2 mois avant qu'il soit relevé de son poste. Plus largement, dans ces débuts des années 40, l'histoire artistique du pays, l'idée d'une renaissance de l'art français et d'un nouveau rayonnement hors des frontières nationales deviennent les pivots d'une véritable stratégie culturelle. Cette stratégie vise à soutenir une identité nationale battue sur le plan militaire. On comprend ainsi l'appel à la défense de la beauté française, soutenu à plusieurs reprises par Hautecoeur, jusqu'en décembre 1943, lorsqu'il trace, à l'occasion d'une conférence à Vichy, un premier bilan de l'activité du secrétariat général. Le rôle pédagogique de l'histoire s'impose ici dans la présentation de sa politique de protection du patrimoine, des villes et des sites français, visée par la finalisation d'outils tels que la loi sur la protection des perspectives et des sites de 1942, qui a été évoquée tout à l'heure par Laurence Bertrand d'Oléac, ou encore la loi sur la réglementation de l'affichage, promulguée le 12 avril 1943, ou 2 mois plus tard, le 15 juin, la loi dite d'urbanisme. Ces réflexions abordent en réalité la protection du paysage naturel et urbain, mais aussi la façon dont l'architecture contemporaine s'y intègre. Et c'est notamment au sujet d'une architecture de la maison, à la fois régionale et nationale, traditionnelle et moderne, que les propos de Hautecoeur rejoignent un débat ouvert 30 ans plus tôt, comme Jean-Claude Louis Gatteau l'a bien montré. Régionalisme et conservation du patrimoine. Il s'agit de sujets qui vont porter une charge idéologique très lourde. La conclusion esquissée par Hautecoeur dans son manuscrit de septembre 1943, consacré à la défense de la beauté française, avant de disparaître dans la révision effectuée lors de l'édition de ces textes dans les bulletins de l'enseignement primaire, en 43, fin 43, exprime entièrement la convergence avec le régime autour de la sauvegarde d'un riche bagage culturel, expression d'une identité française hors de toute dimension temporelle. Depuis décembre 1940, en fait, le secrétaire d'État à l'instruction publique, dans un courrier adressé à Pétain, exprime des orientations qui sont au centre de l'approche de Hautecoeur, en remarquant la place importante réservée aux beaux-arts dans l'action gouvernementale. La presse témoigne des transformations envisagées dont le nouveau directeur de Beaux-Arts est présenté comme le futur artisan. Hautecoeur dresse un plan de réforme et d'action dont il expose lui aussi, à partir de décembre 1940, les raisons et les objectifs. Après avoir abordé la refonte du système administratif envisageant la création de 2 grands services, d'une part le service de l'enseignement, des travaux d'art et des spectacles, et d'autre part la direction des services d'architecture, il aborde les aspects principaux de son dessein. La réforme de l'enseignement de l'architecture à l'École des Beaux-Arts, liée à la réglementation de la profession d'architecte, la réorganisation des grandes manufactures nationales, enfin réunies sous la même administration, la redéfinition administrative des musées, et notamment la redéfinition du rapport des musées de Provence avec la direction des musées nationaux, une politique concrète visant au développement des travaux d'art, en particulier l'établissement, à partir de 1941, d'un programme de grands travaux financés par l'État concernant 457 édifices d'intérêt historique qui ont été endommagés par la guerre, qui doivent être remis en état, ainsi que de nombreux bâtiments civils et, tout d'abord, dans la liste, les grands châteaux royaux de Versailles, de Fontainebleau ou encore de Rambouillet. La continuité du débat sur le rôle des Beaux-Arts depuis le milieu des années 30 est en tout cas frappante. Et si l'on considère, par exemple, le rapport du député communiste Joarny Berlioz concernant le budget des Beaux-Arts présenté pour l'année 1937, on relève quand même des antécédents à l'égard de la construction législative des années 40 et des ambitions culturelles qui l'accompagnaient. Une prise de conscience de la nécessité de réorganiser les services d'architecture de l'État s'y imposait, à partir de la révision du rôle attribué au Conseil général des bâtiments civils, déjà objet de plusieurs interventions législatives au cours des années 1930. Berlioz souligne pareillement le caractère français de la culture artistique, Aussi suggère-t-il la création d'un ministère de l'art français pour établir et défendre la primauté de la production artistique française dans un cadre international, la même notion de défense de la culture, de renforcement du potentiel artistique en tant que forme d'une défense nationale bien comprise, va régir l'action administrative de Hoedtke quelques années plus tard. Sa proximité, la proximité de Hoedtke avec les élites du milieu architectural pendant tout l'entre-deux-guerres, est un atout pour comprendre la réception positive de la nomination de Louis Hoedtke, ainsi que son action spécifique en tant que directeur, puis secrétaire de Beaux-Arts, à la fois au sujet de la réforme de la profession et de l'enseignement de l'architecture. Hoedtke a été, depuis 1922 et jusqu'à 1939, quand même le rédacteur en chef de l'organe de presse de la Société centrale des architectes, la revue L'Architecture, fédérant depuis 1927 aussi la SADG, la Société des architectes diplômés par les gouvernements, et la Société provinciale des architectes. Il s'est aussi engagé, notamment depuis 1933, dans une action de promotion de l'art français, mais aussi de l'architecture contemporaine française à l'étranger, aux côtés de la SADG, mais aussi aux côtés de l'Association française d'expansion et d'échange artistique, interrompue seulement par la guerre. Ce n'est donc pas étonnant que ce soit non seulement des artistes, mais aussi des architectes qui se félicitent de sa nomination à la Direction générale des Beaux-Arts. Par exemple, Paul Viard, vous avez encore deux images concernant en particulier ces expositions d'architecture française que Hoedtke parraine aux côtés de la SCDJA et de la FEA. Au sujet de ces félicitations, j'ai entendu citer par exemple Paul Viard, l'un des architectes concepteurs en fait, du projet des musées d'art moderne, ou encore Louis Madeline, praticien et ancien professeur de théorie à l'architecture, de l'architecture à l'École des Beaux-Arts, et surtout des personnalités qui témoignent de ses contacts avec les cadres du milieu architectural. Albert Tourner, à plusieurs reprises président de la Société centrale des architectes. Charles Hallé, qui était le président de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, ou encore le sculpteur Paul Landowski, nouveau directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts depuis 1937. Par ailleurs, le 11 novembre 1942, l'un des membres du Conseil supérieur de l'Ordre des architectes et président de l'association provinciale, Pierre Rémory, en s'adressant au nouveau ministre des Finances, Pierre Catala, lui signale l'inquiétude du milieu professionnel sur la nouvelle d'un possible remplacement de Hoedtke à la direction des Beaux-Arts après l'avènement de Pierre Laval comme chef du gouvernement. Lorsque Hoedtke est finalement relevé de son poste le 9 mars 1944, les lettres nombreuses qu'il reçoit témoignent entre autres de l'estime de ceux qui, depuis les années 1920, ont partagé son chemin et ses engagements. Par ailleurs, depuis 1925 déjà, Hoedtke avait occupé le poste de professeur d'histoire générale de l'architecture à l'École des Beaux-Arts. Et il s'était aussi investi dans des projets de réforme de la pédagogie qui ne se limitaient pas à la transformation du cours d'histoire proposé en 1926 et entériné 8 ans plus tard avec la suppression du concours en histoire générale de l'architecture. En 1929, dans son ouvrage « Considérations sur l'art d'aujourd'hui », Hoedtke avait détaillé ses réflexions critiques sur l'enseignement à l'École des Beaux-Arts. La cible était le déséquilibre entre un ensemble de cours peu suivis par les élèves et un système de concours scolaire n'échappant pas à la déformation de ses finalités d'origine. Quelques-unes des solutions que propose alors Hoedtke annoncent quelques thèmes débattus au sein des années 1940. En particulier, Hoedtke lance à cette occasion l'une des idées qui guideront jusqu'à son aboutissement sous Vichy le débat sur la réforme de l'enseignement, c'est-à-dire la création d'un véritable cursus d'études préparatoires. La constatation d'un changement indispensable dans la formulation des études proposées aux élèves architectes va aussi dans le sens de la spécialisation. Hoedtke envisage la possibilité d'organiser, comme pour les médecins ou pour les avocats, des cours à cet effet. Par exemple, un cours supplémentaire de législation pour les architectes qui désirent devenir des experts juridiques, ou encore un cours d'archéologie pour ceux qui veulent se présenter au concours des monuments historiques. Au début des années 30, ces propos apparaissent en phase avec le ressenti des architectes eux-mêmes à propos de la nécessité de réorganiser la formation de l'architecte en France. Par exemple, en septembre 1933, lors de la deuxième réunion internationale d'architectes à Milan, Albert Laprade, inspecteur général de l'enseignement des Beaux-Arts depuis le début de cette année, fait le point de la situation en France et songe à une véritable réforme de la pédagogie architecturale. Il envisage une formation professionnelle de base, une véritable école technique, préalable à une seconde école réservée aux élèves qui concourent pour le Grand Prix de Rome, assurant un niveau de spécialisation qui, par un diplôme d'études supérieures, garantirait la formation d'une élite destinée aux services publics et aux grands travaux d'État. Excusez-moi. De même, que ce soit du côté des associations d'architectes, par la voix du président de l'association provinciale, Rémoli, ou du côté de l'École des Beaux-Arts, par la voix de son directeur Emmanuel Pontremoli, prédécesseur de Landowski, à la même époque, on discute de la coordination entre le projet de création d'un ordre professionnel et la réforme de la pédagogie. Dans ce cadre, pour la première fois, il est question de replacer les statuts des écoles régionales d'architecture dans un contexte d'enseignement universitaire. D'une part, parce que, par un nouveau statut des facultés universitaires reparti sur l'ensemble du territoire national, elle serait devenue le moteur de la réforme pédagogique. D'autre part, parce qu'il s'agirait ainsi de mettre fin, une fois pour toutes, à leur subordination à l'École des Beaux-Arts de Paris. Les analogies sont frappantes en ce qui concerne le projet de réforme lancé et porté au début des années 1940. À la fois à propos d'une réarticulation du rapport entre pédagogie et profession, de la constitution d'une double filière pédagogique, d'une section d'études normales et d'une section des hautes études, et enfin de la réécriture du statut des écoles régionales. Dans cette perspective, Hautecoeur jouera un rôle clé. En contact étroit avec Paul Landowski depuis juillet 1940, il ne tarde pas à manifester son intérêt et son soutien à une réforme complète de l'enseignement architectural. C'est à sa demande que Landowski pointe dans une lettre sans date mais remontant au second semestre 1940 quelques points forts à mettre en avant par une réforme législative. Nouvelles modalités de recrutement des élèves, organisation d'un stage obligatoire en liaison avec les diplômes, révision du statut des écoles régionales d'architecture, justement. L'enchaînement, d'ailleurs, avec la réforme professionnelle est aussi évident au point de vue législatif. La réforme pédagogique est conçue en application de la loi concernant l'ordre professionnel, promulguée le 31 décembre 1940. Validé par un décret du 17 février 1941, ce projet de réforme envisage la progression esquissée, disons plus tôt, au début des années 30, depuis les études préparatoires jusqu'aux hautes études, en passant par les études normales. Hautecoeur préside le Conseil supérieur de l'architecture créé auprès de la Direction des Beaux-Arts pour permettre la progressive mise en œuvre de la réforme jusqu'à la création de cette section des hautes études arrêtée par le décret du 29 juillet 1941. Cette section, elle, recoupe l'organisation de la section d'architecture de l'École des Beaux-Arts avec la mise au point d'aspects inédits comme cours spéciaux et travaux pratiques rattachés au cursus. Et le rôle que Hautecoeur attribue à ces derniers niveaux d'études apparaît très clairement dans les discours qu'il prononce à l'occasion de l'inauguration, plusieurs fois reporté, de cette nouvelle section le 8 novembre 1943. Ce discours et les conférences inaugurales des architectes Paul Tournon et Michel Rouspitz, faisant partie du Conseil d'architecture et du corps enseignant de cette section, convergent dans une valorisation de la leçon du passé à l'ombre de l'histoire architecturale nationale qui retentit lourdement par rapport aux outils idéologiques du régime vichyste. Mais quelle est finalement la position idéologique de Hautecoeur face au régime autoritaire dans le cadre duquel il opère en tant que fonctionnaire? Bien évidemment, en 1948, dans les mémoires de son secrétariat des Beaux-Arts, il déclarera d'avoir été surtout dévoué aux intérêts de la nation, en étant, je cite, « utile en des temps difficiles ». Le souci de situer son action au-dessus de toute ligne politique demeure en ce moment-là, évidemment, un enjeu de taille. Mais, par la confiance accordée à l'action de réforme portée dès les débuts par les gouvernements du maréchal, surtout par son dévouement total à cette cause, voire à cette obligation de servir le nouvel État français, maintes fois répété dans les documents officiels et pas seulement, Hautecoeur participe pourtant de la logique politico-culturelle du régime. Certes, en tant que technicien, en tant qu'érudit, je dirais technicien et fonctionnaire, son activité administrative demeure en même temps hors et dans le cadre du régime. Son attitude face aux politiques de discrimination mises en place par le gouvernement dès l'automne 1940, notamment la discrimination raciale à l'égard des Juifs, constitue un important révélateur à ce sujet. Hautecoeur n'oppose aucune objection aux mesures prises par la Commission générale aux questions juives pour réglementer l'accès des architectes juifs au tableau de l'ordre professionnel qui vient d'être créé. S'il ne partage pas ouvertement la discrimination raciale, il ne prend pas une position clairement et nettement contraire. Le compromis accepté est évident dès le début de sa carrière. L'un des exemples les plus éclairants est celui de l'affaire Cassou, nommé conservateur en chef du musée d'art moderne à partir du 1er août 1940, à la suite de la proposition de Hautecoeur et de Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux à l'époque, Jean Cassou est relevé de ses fonctions presque instantanément, après seulement 2 mois, par un arrêté signé par le nouveau ministre de l'Instruction publique, Georges Ripert, mais pour ampliation signé aussi également par le même Hautecoeur. Entre-temps, une campagne de presse véritablement dénigratoire s'est engagé contre cette nomination, devenue un véritable casus belli. Un critique réactionnaire tel que le Pierre Gaxot arrive à condamner auprès du ministre même la nomination du nouveau conservateur. Le passé politique de militant de gauche de Cassou, le soutien offert au Front populaire espagnol, voire les suppositions sur ses origines juives, constituent les éléments d'une attaque ciblée, malgré les attestations d'estime déjà reçues par Cassou de la part du gouvernement pour son attachement à la sécurité des œuvres d'art au début de la guerre. Dans ce climat, Hautecoeur tient à se démarquer d'un personnage symbolisant en quelque sorte le parlementarisme d'avant-guerre. Dans la lettre qu'il envoie au ministre de l'Instruction publique, juste après la révocation de Cassou, il prend ses distances à l'égard de sa nomination en 1938 comme conservateur adjoint. Pourtant, il est vrai qu'il invite Cassou, qu'il s'adresse à lui face à la contestation montante, et il invite à présenter un rapport au ministre afin d'expliquer la nature de ses activités et des orientations qui lui sont reprochées. Et encore, il est vrai qu'il interviendra ensuite pour défendre sa valeur professionnelle. Témoignant du déroulement de cette affaire dans son journal inédit, Paul Landowski, dont vous avez vu le portrait photographique tout à l'heure, observe l'impuissance de Hautecoeur, en essayant de justifier même l'épilogue de la révocation de Cassou. En outre, dans ce journal, toujours Landowski rapporte un climat très troublé et très sombre, avec des attaques subies aussi par Hautecoeur. Ce sont les manœuvres transversales que les architectes comme Gustave Van der Stock ou des sculpteurs comme Henri Bouchard mènent contre Hautecoeur, ainsi que contre Landowski lui-même. Mais il s'agit surtout de l'action directe du gouvernement qui ira jusqu'au projet de révocation de Hautecoeur lorsque, surtout après avril 1942, les climats politiques s'endurcissent. Il faut néanmoins rappeler, je vais vers la conclusion, aussi que Hautecoeur prendra parti explicitement pour obtenir des dérogations lorsque le fond même de son projet de transformation du système des beaux-arts est mis en cause, tout en agissant à l'abri d'un jeu politique qui pourrait quand même gêner le gouvernement du maréchal Pétain. Au moment où Paul Léon, ancien directeur des beaux-arts et donc son prédécesseur, est frappé par les discriminations anti-juives de la loi du 2 juin 1941, qui était tout à l'heure rappelée par Laurence Bertrand d'Oléa, qui n'hésite pas à formuler sa propre recommandation. Hautecoeur recommande donc la professionnalité, le caractère et les compétences de Léon, les activités, les charges assumées, les publications, les projets sont évoqués pour témoigner du dévouement de Léon à la nation et pour souligner combien son œuvre accompagne le projet culturel établi depuis l'entre-deux-guerres par Hautecoeur. Dès le lendemain d'ailleurs de sa nomination, on a les traces de ces contacts continus entre Hautecoeur et Paul Léon. Il le rencontre plusieurs fois entre juillet et septembre 1940 et le questionne surtout au sujet de la reconstruction. Je voudrais donc conclure en observant, c'est un petit anecdote mais révélateur, que Bernard Dorival, historien de l'art et élève de Hautecoeur, lors d'un entretien que j'avais eu avec lui en 1999, m'affirmait que Hautecoeur, à son sens, avait été pétainiste mais pas collaborationniste. Or, la frontière entre ces deux adjectifs est sans doute très difficile à saisir, voire très opinable. En tout cas, ce jugement trahit, me semble-t-il, toute l'implication et la contribution de Louis Hautecoeur dans et à l'idéologie officielle du régime. Merci.